qu'il vit. Je n'ai rien à craindre les lendemains sont assurés entre ses mains. Assurance ce soir. Bonsoir à tous, c'est le dernier vendredi de l'année, c'est ça, hein? On est bien contents. On était contents de rentrer dans 2012, on est bien contents d'en sortir aussi. Voilà, voilà. On va faire une lecture dans Colossiens au chapitre 2, versets 6 et 7. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Amen. Vous avez vu ? Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ par la foi. Parce que nous avons compris quelque chose, eh bien, de la même manière, nous devons marcher, continuer avec lui. Je crois de tout mon cœur qu'il y a des degrés dans le domaine de la foi. Savoir ça, c'est un intérêt vital pour celui ou celle qui est né de nouveau. Comme nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ par la foi, eh bien, nous devons marcher. Et c'est important de savoir que notre foi ne doit pas rester toujours au même point, mais qu'elle a besoin de grandir, elle a besoin d'évoluer. Parce qu'une personne née de nouveau entend constamment l'appel du Seigneur, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » N'est-ce pas? On entend tout le temps ça. Une âme née de nouveau, quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, il entend cet appel qui est pressant de la part du Seigneur, « Soyez saints, car je suis saint. » Et l'âme qui est vraiment née de nouveau, elle dit « Amen ». Amen, c'est un amen fervent, c'est un, on veut ça. Ça, c'est notre désir. C'est de devenir parfait comme notre Père Céleste est parfait, de devenir saint parce que Jésus-Christ sur cette terre a mené une vie sainte qui est un exemple. Alors, Paul nous montre l'unique chemin que le disciple doit suivre. Pour cela, un disciple de Jésus-Christ, il ne peut pas se tromper. Le chemin, c'est Jésus-Christ lui-même. On ne peut pas se tromper. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, c'est-à-dire évoluez, grandissez, allez vers le but, mais en lui, en étant enraciné, en étant fondé en lui. Alors, il est d'abord question de justification quand on vient au Seigneur Jésus-Christ. Et il nous est impossible d'être saint avant d'avoir été justifié, avant d'avoir été rendu juste. Beaucoup de gens essayent d'être saints, ils n'arrivent pas, ils sont désespérés. Il nous faut d'abord la justification. Et c'est Jésus-Christ qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, 25. Être rendu juste, c'est une chose, mais être délivré du péché qui habite en nous, délivré de ce moi déchu, c'est beaucoup moins facile, beaucoup moins simple à saisir. C'est vrai que Jésus-Christ a été crucifié, c'est vrai qu'il est ressuscité pour nous délivrer du péché qui habite en nous, mais sans l'enseignement, nous ne saurions pas comment cela devient réel, nous ne pourrions pas le avoir foi puisque nous n'aurions pas d'enseignement. Et la foi vient de la parole inspirée de Dieu, donc nous avons besoin de l'enseignement. Cela n'est possible que par une foi d'un degré supérieur à la foi qui nous est demandée pour nous approcher de Dieu, que celui qui veut s'approcher de Dieu d'abord doit croire que Dieu existe. Et puis ensuite, il doit croire ce qu'il a lu au sujet du fait que Jésus a pardonné ses péchés, avoir foi que la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous ont acquis le pardon et la justification aux yeux de Dieu, nous sommes juste à ses yeux, c'est la foi de base. C'est la foi de base. Après, il nous faut une foi alimentée. C'est toujours la foi, mais elle doit être alimentée par l'enseignement des apôtres. Et pour saisir l'aspect le plus profond de ce qui concerne la délivrance du péché qui habite en nous, nous avons besoin d'une foi alimentée. Paul, que les théologiens modernes traitent plus bactère, on a vu ça encore dernièrement chez nous, allant jusqu'à l'accuser de folie, d'avoir des dérangements mentaux, des états de conscience modifiés, et que sais-je, hein, vous avez pendant 3 mois entendu parler de ces choses-là, ces théologiens. Ce Paul est un homme choisi de Dieu qui est annoncé dans le testament de Benjamin. Il y a un livre qui s'appelle le testament des 12 patriarches et il y a donc le testament de Benjamin. Je vais vous lire ce qu'il est écrit là dans ce testament de Benjamin, donc un des 12 patriarches. C'est une prophétie concernant l'apôtre Paul. Il dit « Je ne serai plus appelé loup rapace à cause de vos rapines, mais ouvrier du Seigneur distribuant la nourriture à ceux qui travaillent à faire le bien. De ma descendance se lèvera dans les derniers temps l'aimé du Seigneur, écoutant sa voix, faisant le bon plaisir de sa volonté, illuminant d'une nouvelle connaissance toutes les nations. » Lumière de connaissance, il foulera Israël aux pieds, le dépouillant comme un loup de ce qu'il donnera à la synagogue des nations. Jusqu'à la consommation des temps, il sera dans les synagogues des nations et parmi leurs chefs, comme un chant dans la bouche de tous. Il exposera dans des livres saints son œuvre et son message, et il sera l'élu de Dieu à jamais. À cause de lui, Jacob, mon père, m'a pris ce qui suit. C'est lui qui comblera les manques de ta tribu, les manques de la tribu de Benjamin. Paul était donc, hein, on le sait, un membre de la tribu de Benjamin. Voilà une prophétie. Dieu savait à l'avance qu'il choisirait cet homme, et ceux qui disent qu'il avait des états de conscience modifiés, qu'il était zinzin, que ça porte des noms psychiatriques, etc. Eh bien, on n'a pas à écouter des gens comme ça. Quand Dieu choisit un homme, quand Dieu suscite un homme, et quand cet homme fait exactement la volonté de Dieu, nous sommes fiers d'écouter ce que cet homme a à dire. Amen. Amen. Ce Paul, il est l'homme choisi de Dieu. Ce Paul a reçu des révélations qui nous éclairent si nous lisons et si nous méditons, et si nous faisons le bien, c'est écrit, ça sera du bonheur pour ceux qui font le bien. Pour les autres, ben voilà, c'est un raconteur d'histoire, malade mental et compagnie. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'ils font le mal. Dans ses lettres aux Romains, aux Galates, dans la deuxième aux Corinthiens, aux Éphésiens, c'est le Colossiens, la révélation que Paul a eue de la délivrance est parfaitement claire. Mais encore faut-il la lire. Paul explique clairement, lorsque Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, c'était en se substituant aux pécheurs, ça c'est clair. Et il l'a fait d'une manière complète. Ça signifie qu'il n'a pas seulement porté lui-même nos péchés dans son corps, sur le bois de la croix, comme Pierre le dit dans 1 Pierre 2, 24, et il a raison de le dire, mais il va plus loin, l'apôtre Paul. Il n'a pas seulement porté sur lui la réalité de nos péchés, de nos souillures, des conséquences de nos péchés. Il n'a pas que enseveli avec lui dans la tombe nos péchés, nos souillures et ses conséquences. Il n'a pas que démontré par sa résurrection que le sacrifice à la croix a été agréé de Dieu, qu'il a été reçu et accepté par le Père, et que les pécheurs donc se trouvent justifiés. Il n'a pas fait que cela, il a fait plus. Cela, quand on croit cela, c'est la base de la foi. Mais il a fait plus que cela. Il est devenu péché pour nous. 2 Corinthiens 5, 21. Il est devenu le pécheur unique. Il est devenu lui-même le pécheur. On va lire 2 Corinthiens 5, 21, s'il vous plaît. Je vais vous le lire, si je le trouve, dans tous mes bouts de papier. 2 Corinthiens 5, 21. Oh, on va déjà lire bien avant. On va lire 5, 14, 21. Écoutez ça. L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus les personnes selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelle. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Il est devenu le pécheur unique. Il a pris la racine du péché et il a pris le fruit du péché. Il a pris toute l'œuvre du péché dans l'homme. Il a pris la présence du péché qui demeurait en nous. Il a pris l'emprise du péché qui était sur nous, il a pris la corruption du péché sur notre nature, sur notre ego. Jésus a pris tout cela car le plus grand péché de l'homme, c'est l'homme lui-même. Parce que l'homme est déchu, on est né déchu. À cause de la faute de Adam et Ève, plutôt non, de Ève et Adam. Et puis ensuite, à cause des mélanges qui ont été faits avec la race de Caïn, et puis ensuite le comble avec ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 6 et toute la corruption qui a eu lieu suite à cela et qui existe encore. Alors tout ça, ça nous éclaire. Lorsque Jésus-Christ a été crucifié, l'homme pécheur, aussi bien que les péchés de l'homme qui étaient en lui, ont été crucifiés en lui. Et lorsque Jésus-Christ a été enseveli, l'homme pécheur a été enseveli en lui. Et lorsque Jésus-Christ est ressuscité, l'homme est ressuscité en lui. Non plus pécheur, mais en nouveauté de vie. Avez-vous saisi tout ce que ça implique? C'est immense. Il faut y penser, il faut méditer ces choses. Je vais vous lire plusieurs textes ce soir. Et vous les relirez et vous les méditerez d'ici dimanche matin. Dimanche matin, je mettrai le point final à cet enseignement. Mais là, ce soir, je vais vous lire quelques versets. Par exemple, Romains 6, 1 à 13. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Parce qu'il y en a qui disaient ça. Oh ben, quand je pêche, ça glorifie Dieu parce qu'il me pardonne, et puis voilà, puis il vient au secours de ceux que cela blesse, etc., etc. Donc finalement, Dieu est glorifié quand je pêche et tout. Alors, il y avait déjà des gens tordus à l'époque, hein. Paul dit, que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous, nous, que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés? Donc enseveli, immergé. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie, c'est-à-dire en résurrection. Et si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Êtes-vous mort? Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi par lui, avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu, en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, à ma place. Et maintenant, 2 Corinthiens 4, 10, 12. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Nous portons la mort de Jésus dans notre corps afin de manifester sa résurrection dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. La vie de Jésus doit être manifestée dans notre chair mortelle. Dans 2 Corinthiens 5, 14, 11. 2 Corinthiens 5, 14, ou plutôt, hein. Non, 14, 21. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence, car tout cela arrive à cause de vous, que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors il dit, regardons pas, regardons-nous comme morts, mais ça c'est invisible. Eh bien, ne regardons pas l'être vivant que nous sommes, avec toutes les difficultés, avec tout ce qui nous semble impossible, mais regardons à l'invisible, parce que c'est ça qui demeurera éternellement. Dans Éphésiens 2, 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ, et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous êtes où ici? Si vous regardez la réalité, vous êtes assis ici à la chapelle du sanctuaire, mais vous ne devez pas regarder à cette réalité-là parce qu'elle est fausse. La vraie réalité, c'est que vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ça la réalité. Et si vous croyez ça, eh bien, vous croyez que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Jésus-Christ qui vit en vous. Ça, c'est une foi d'un degré supérieur. On reviendra là-dessus dimanche. Colossiens 2,
10, 12.
Vous avez tout pleinement en lui. D'abord, en lui, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a toute la plénitude de la divinité. Ça, c'est au verset juste avant. En lui habite toute, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Maintenant, vous avez tout cela pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous voyez la force de cela ? Vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de la chair, mais c'est la circoncision de Christ. C'est quoi cette circoncision de Christ ? C'est le dépouillement du corps de la chair. Et le corps de notre chair a été enseveli en même temps que le corps de Jésus-Christ dans la tombe. Voilà ce qu'il nous dit. Colossiens 1, 3, 1 à 11. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, aux calomnies, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance. Comment il se renouvelle ? C'est dans la connaissance, selon l'image de celui qu'il a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Et puis il y a un Pierre, parce que je ne vais pas citer que Paul quand même, 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous voyez, mes frères et sœurs, nous ne portons pas nos regards vers l'avenir, vers quelque chose qui se produira pour nous délivrer. Mais un pécheur qui vient à Jésus, immédiatement, il se sait pardonner, il reçoit le pardon, il sait immédiatement qu'il est pardonné. Il n'attend pas quelque chose de futur, il n'a pas l'espoir du pardon, il se sait pardonner. Il regarde à ce fait historique de Jésus sur la croix, qui a porté son péché sur la croix, il regarde à ça, il voit l'écriture sacrée, il croit l'écriture sacrée, et c'est fait. C'est fait. Il sait qu'il est en paix avec Dieu et de même, puisque c'est comme nous avons reçu Jésus-Christ, nous devons marcher en lui. C'est-à-dire nous devons progresser en lui, nous devons aller au but. Eh bien, de même, le chrétien qui aspire à être libéré de ce moi qui l'entrave doit non pas demander la délivrance, mais regarder le passé, regarder dans le passé, cette même scène, le même Jésus-Christ crucifié, et là, le contempler, mais d'un autre point de vue, pas comme le pécheur qui vient, qui se repent et qui reçoit le pardon, mais d'un autre point de vue. Il doit regarder dans le passé, en regardant à Jésus à la croix, et doit se voir lui-même avec Christ, sur la croix, en Jésus-Christ, sur la croix. Il doit se dire, comme Paul le disait de lui-même, « J'ai été et je suis encore crucifié avec Christ. Je suis mort. » Et si je vis, ben c'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi, comme on a lu dans Galates 2:20. Il doit faire ce que Paul dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6:11 qu'on a lu aussi. C'est une autre foi, une foi d'un degré supérieur qui est demandée à ceux qui veulent marcher en Jésus-Christ. Nous avons été sauvés par Jésus-Christ et en Jésus-Christ pardonnés de nos péchés. C'est bien, c'est merveilleux, mais maintenant nous devons marcher. Et comment ? De la même manière, en regardant dans le passé ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix et sachant, apprenant par l'apôtre Paul, ce saint homme de Dieu, apprenant par lui, que nous étions là dans ce corps. Et quand il était enseveli, nous étions là dans ce corps. Et quand il est ressuscité, nous étions là dans ce corps. Et si nous y étions, nous y sommes encore. Le disciple de Jésus-Christ doit se voir lui-même crucifié et enseveli avec Jésus-Christ. Le baptême, c'est l'image de cela. Laissant dans la tombe ce corps de péché. Et il doit se regarder lui-même, ressuscité avec Christ, ayant Jésus-Christ en lui-même, en sorte que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Voilà comment doit se regarder un disciple de Jésus-Christ. Alors, bien sûr, personne ne peut être disciple de Jésus-Christ s'il ne vend pas tous ses biens, s'il ne renonce pas à toute chose, comme c'est écrit, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui va avec. Un disciple de Jésus-Christ, il doit marcher en Jésus-Christ. Vous pouvez vendre votre frigidaire, votre télé, votre ce que vous voulez, vos machins, vos terrains, vos maisons, et puis ne pas marcher en Jésus-Christ toute votre vie, et le fait d'avoir vendu toutes vos affaires ne vous servira strictement à rien, parce que ça, c'est que le départ. Ça fait partie des clés qui ouvrent une porte sur un chemin. Les clés sont les quatre clés de Acte 2, 38, je crois que c'est ça. Et puis après, après ces clés-là, ça nous ouvre une porte qui nous aide, qui nous ouvre un chemin sur lequel nous devons marcher en Jésus-Christ. Et on ne peut pas marcher en Jésus-Christ autrement que comme je viens de vous dire. Ça n'existe pas. Et c'est ici, à ce moment-là, que la bataille commence. Quand on commence à croire ça. Parce que là, on se rend compte d'une chose, mes frères et sœurs. La foi au présent, c'est bien plus difficile que la foi au passé et la foi au futur. Là, on découvre que c'est facile de croire que Jésus a pardonné nos péchés. Là, on découvre que c'est facile de croire que nous avons un avenir assuré. Facile. Mais il n'est plus du tout aussi aisé, aussi facile de croire vraiment et d'être pleinement assuré que le fait actuel est vrai, que je suis mort, que vous êtes mort. C'est ça, ça demande une foi différente. Que notre vieil homme est crucifié avec lui, pas simplement il a été crucifié, mais qu'il est encore aujourd'hui crucifié. Et que nous sommes ressuscités avec lui. Pour être quoi? Pour être libre de chercher les choses d'en haut. On ne peut pas chercher les choses d'en haut si on n'est pas mort et enseveli et ressuscité en lui. Nous pouvons l'être dans la réalité profonde spirituelle, mais si nous ne le savons pas, si nous l'ignorons, nous marchons un pied sur le trottoir, un pied sur la route, on a une vie chrétienne bancale. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir cet enseignement, de l'intégrer à notre vie, de le croire comme un point scientifique, historique, réel, que maintenant il va falloir travailler sur notre vie parce que notre être tout entier, notre chair, notre moi crie « c'est faux, c'est un mensonge ». Alors je vais revenir là-dessus, sur ce degré de foi-là, dimanche prochain, ce degré que nous devons, si nous ne l'avons pas atteint, que nous devons atteindre. J'y reviendrai dimanche. En attendant, je vous demanderai de méditer sur ces nombreux textes que je viens de vous donner, de prier et de préparer ainsi vos cœurs à recevoir ce que j'ai à vous dire dimanche. Ça va être très important. Ensuite, le vendredi 4, il y aura encore une suite à cela. Mais tout le monde ne pourra pas l'écouter. Ce ne sera que pour ceux qui sont véritablement des disciples, qui cherchent vraiment à se discipliner, qui cherchent vraiment à faire la volonté de Dieu. Et notre frère Richie est en train de chercher, il a presque trouvé maintenant comment faire pour que ceux qui sont sur Internet puissent venir et se brancher pour venir écouter ces choses-là. Mais ça ne sera pas donné à tout le monde. Il faudra que vraiment vous cherchiez, que vous vouliez vraiment chercher de tout votre cœur le message que Jésus donne à ses disciples et non pas à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. On se met debout et on prie. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous enseignes des choses qui sont profondes et qui nous aident à vivre dans ces temps difficiles. Que nous puissions comprendre les choses que toi tu comprenais, que tu as enseignées à ton apôtre Paul et aussi aux autres, mais principalement à Paul. Je te demande mon Dieu que nous ayons véritablement cela clair dans nos esprits, que ça ne soit pas du charabia évangélique, mais que ça soit réellement profond et bien inscrit d'une façon claire dans notre pensée pour que nous puissions le pratiquer. Merci Jésus. Amen.